Les mémoires de la musique. Le jeu d'Hérode, une dramaturgie du verbe fait chair au XIIe siècle, cinq émissions par Bertrand Descaillets, au micro de Charles Sigel. Quatrième émission, l'étoile des rois. Une toute petite antienne qui a pour titre « Videntes Stellam », la joie des mages fut grande lorsqu'ils virent l'étoile. Ils entrèrent dans la maison et offrirent au Seigneur de l'or, de l'encens et de la myrrhe par le groupe Anonymous Four. Bertrand Descaillets, bonjour.
Bonjour. Dites-moi, Charles Sigel.
Dans une émission qui s'appelle « Les mémoires de la musique », comme je viens de le dire il y a quelques secondes, il me semble qu'on parle peu de musique autour de ce thème du jeu d'Hérode.
Oui, alors on envisagera la question musicale plus particulièrement demain, mais finalement ce n'est pas étonnant qu'on parle peu de musique, puisque la musique en elle-même n'est pas véritablement pertinente pour toute la tradition médiévale.
C'est-à-dire pas pertinente, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Lorsqu'on la sépare du texte, oui bien sûr, il faut préciser. La musique en soi n'est intéressante que dans la mesure où elle est un commentaire de la parole ou une stylisation de la parole, une mise en valeur de la parole. Elle est elle-même un infléchissement de la parole, donc elle est inséparable de la parole.
Et c'est la parole qui inspire la musique, c'est les courbes de la langue, les longues, les courtes qui inspirent la musique du grégorien. Oui. Pourtant, on a une partition. Je ne sais pas si on en a parlé, mais la partition a été éditée d'ailleurs.
Tout à fait.
Elle existe.
Oui.
C'est Luca Ricosa, je crois,
qui l'a éditée. Une édition critique qui a été faite par Luca Ricosa à l'occasion d'une représentation qui a été donnée en 94-95 par l'Opéra Studio de Genève avec Jean-Marie Curti. Et bien sûr, on possède la partition. Tout est écrit, c'est très clair, c'est très simple. J'entends, il n'y a aucun doute sur la musique elle-même, contrairement à d'autres partitions entre guillemets médiévales qui sont lacunaires de ce point de vue-là, il faut reconstituer la musique. Là, non, tout est écrit, c'est très évident, mais la musique n'est intéressante que dans sa manière d'infléchir, encore une fois, de commenter, c'est toujours la même idée, hein. Toute composition est un commentaire, en fin de compte, de commenter le texte qui lui-même est porteur de sens. Donc, on parlera un peu plus longuement.
On parlera de la question des modes, je crois.
Voilà.
Qui prouve bien que s'il y a une recherche sur les modes, c'est qu'il doit y avoir quand même derrière la personne qui a trouvé la musique ou les personnes qui s'y sont mises à plusieurs décennies pour trouver la musique, eh bien une idée, une recherche, une couleur qu'il voulait mettre en avant, non ?
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, nous sommes un tout petit peu pervertis, entre guillemets, je dirais, par l'évolution des choses dans l'histoire de la musique. Et il faut attendre le XVIIe siècle pour que la musique instrumentale trouve un statut d'autonomie par rapport au texte, en tout cas dans le domaine du sacré, avec l'émergence du concerto italien. Avant, la musicalité pure n'existe pas, ou elle existe que par référence, et encore dans le concerto italien, le violon chante et parle un certain texte. La musicalité pure n'existe pas et n'est pas intéressante.
Il y a une volonté d'expressivité quand même, non ?
Oui, bien sûr, mais qui s'inscrit dans le commentaire de la langue, dans le commentaire du texte. La musique fait partie de la dimension littéraire de l'œuvre, d'une certaine manière. Elle est d'ailleurs une des caractéristiques de la rhétorique. Elle appartient au discours, elle est un art du discours, en fin de compte. Alors aujourd'hui,
notre étoile, donc.
L'étoile des rois, qui est un thème central puisqu'il parcourt tout le drame liturgique, au sens propre comme au sens figuré. Et il y avait d'ailleurs, il y a des versions antérieures à notre jeu d'Hérode qui sont plus courtes. Il y a par exemple la scène des bergers qui existe dans une version antérieure et que l'on jouait toute seule. Il y a l'adoration des rois aussi qui existait dans une version antérieure et celle-ci s'appelait Lordo Stellé. On en trouve d'ailleurs comme titre qui est très évocateur sur certains disques. Hein. Le Lordo de l'étoile, le jeu de l'étoile. Et donc l'étoile est tout à fait centrale. Alors hier on évoquait le motif de Balaam. C'est un tout petit peu analogue, c'est un motif qui est allégorique du genre lui-même, de la représentation elle-même. Mais alors, hier, c'était sous l'angle de l'ambiguïté du personnage.
Et puis Balaam, c'était une incidente presque. Vous êtes allé débusquer dans le texte, il apparaît très très peu. Tandis que l'étoile, oui, dans ce jeu d'Hérode au XIIe siècle, rappelons-le pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous lors des précédentes émissions, il s'agit d'un jeu liturgique qui date du XIIe siècle, donc de l'âge roman. Oui. Et on voit dans cette représentation, qui n'est pas une représentation d'ailleurs, nous l'avons dit, qui était une sorte de prière qui se donnait dans le cœur de l'Église, l'étoile est trop présente tout au long du texte. Là.
Oui, absolument, elle parcourt tout le texte. Mais il y a un parallèle entre Balaam et l'étoile, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, en essayant simplement de suivre cette étoile tout au long du drame. Alors, première occurrence de l'étoile, elle est mentionnée après l'adoration des bergers, à cet endroit stratégique du texte où les bergers rencontrent les rois mages avant que les mages eux-mêmes partent au palais d'Hérode. Donc il y a juste cette amorce de jointure entre les deux scènes du jeu d'Hérode. Et le premier mot que prononce le premier roi mage, c'est précisément « voici l'étoile, Stella fulgore rutilat ». Elle est mentionnée comme une étoile qui luit d'un éclat exceptionnel, donc elle a déjà quelque chose qui passe l'aspect naturel des choses. On amorce une interprétation du côté du mystère, en tout cas, ou de quelque chose qui renvoie au monde surnaturel.
Et le second mage répond « quem venturum olim propheta signaverat », dont le prophète avait autrefois annoncé la venue. Donc tout est toujours référentiel à quelque chose qui s'est passé avant.
Oui, et au monde surnaturel, la prophétie qui renvoie. Donc cette étoile est un signe qui renvoie spontanément tout de suite au domaine de l'invisible. Et puis, il est dit à ce moment-là que les mages magi conveniant ante altare vel adortum stelle. Les mages convergent devant l'autel, là où l'étoile se lève. Donc l'étoile se lève devant l'autel. Et ça, c'est un signe très très fort pour le Moyen-Âge. Hier, Charles, vous me posiez la question de la surinterprétation. Il est vrai qu'on effleure le texte aussi. Il faudrait rentrer véritablement dans le détail et pouvoir aller explorer chaque élément. Et il y a une convergence comme ça qui permet une certaine interprétation. Par exemple, ici, la mention de l'autel, là aussi, a priori, de la modernité, vue de la modernité, on aurait tendance à négliger ce détail. Mais l'autel est un symbole très très fort dans la liturgie. Et l'autel représente le Christ.
Le tombeau, non ? Le tombeau vide ?
C'est une sorte de tombeau. Il y a
dans cette structure un peu théâtrale, on va dire.
Oui, c'est le tombeau vide, le tombeau de la résurrection. Oui, c'est tout à fait juste. Ce d'autant plus qu'il y a précisément dans l'autel une cavité que l'on appelle le tombeau, le sépulcre, dans laquelle on insère alors des reliques de saints, des reliques de martyrs, ce qu'on appelle la pierre d'autel précisément. Et au Moyen-Âge, on insérait aussi trois hosties consacrées, ce qui est tout à fait exceptionnel.
Pourquoi trois ?
C'est un symbole trinitaire.
Toujours.
Voilà. Et pour signifier qu'il y a une sorte d'identité entre l'autel et la réalité sacramentelle qui découle de cet autel. En fait, tous les sacrements jaillissent de l'autel comme l'eau jaillit du rocher lorsque Moïse frappe sur le rocher. Et cet autel est le Christ lui-même.
Donc, on est donc là vraiment dans le liturgique. Le liturgique, c'est le symbolique.
Voilà. Et donc, cette étoile est signifiée dans une convergence avec l'autel. Elle se lève au-dessus de l'autel. Donc, elle est un signe sacramentel aussi. Elle apparaît spontanément comme un signe sacramentel. Et puis, il y a l'image de la lumière, bien évidemment, c'est là un autre symbole qui est très très fort, l'image évangélique de la lumière. Le Christ est lui-même lumière dans le prologue de Saint Jean, il est la lumière qui luit au milieu des ténèbres. Donc l'image est très très forte et dans ce rapprochement avec l'autel, il faut se souvenir que l'autel est lui-même orné de lumière, les candélabres. Il y a 6 chandeliers qui sont posés.
Pourquoi 6 ?
Là aussi, alors l'explication, elle est très... elle est à la fois historique et à la fois symbolique, comme toujours. Il y a une raison pratique. Alors, le fait est qu'il y avait 7 acolytes à Rome qui portaient chacun un chandelier.
Qu'est-ce que c'est un acolyte ?
Un acolyte, c'est un clerc qui officie dans la liturgie comme ministre inférieur. Il y a les ministres supérieurs, diacres, sous-diacres, et les inférieurs qui font les tâches plus humbles.
Mmh. Et alors, ces acolytes,
ils étaient 7 en fait, ce qui correspondait aux 7 collines de Rome. Et puis, le 7, c'est un chiffre de plénitude. Et l'un de ces 7 en est venu apporter la croix de procession. Et alors, on retrouve les ornements, entre guillemets, au sens fort, hein, c'est-à-dire les choses qui signifient la réalité invisible. On retrouve ces ornements placés sur l'autel ensuite, c'est-à-dire 6 candélabres et la croix au milieu. Et c'est le chandelier à 7 branches, en fin de compte, qui est alimenté par la même huile sacramentelle qui nourrit toutes les lumières. La lumière centrale étant simplement représentée, c'est la croix, tandis que les lumières qui sont autour signifient ce qu'est la croix dans le symbolisme de la lumière.
Thank you.
c'est des chanteurs américains qui chantaient ce qu'on vient d'entendre, Novastel, c'est l'ensemble Altramar. J'imagine que les occurrences de l'étoile dans la musique du Moyen-Âge sont innombrables, la musique sacrée,
oui.
Il y a des étoiles partout.
Et pour ne citer que l'hymne la plus fameuse, peut-être, c'est l'Ave Maria Stella, où la Vierge est elle-même comparée à l'étoile, l'étoile du voyageur, celle qui guide à travers le pèlerinage terrestre. C'est un motif qui est récurrent et qui est ici fortement connoté liturgique, hein, à travers cette première mention de l'étoile dans le Jeu d'Hérode, avec l'autel, la lumière et le fait que les rois sont en quelque sorte attirés, séduits par cette étoile et vont se mettre en route. Et puis il y a une deuxième mention de l'étoile, c'est au moment où, juste après, les rois se rencontrent même, ils viennent des trois coins opposés de l'église.
On ouvre une parenthèse, là. Oui. Dans la mise en place qui se passait dans l'église, ils venaient de trois directions différentes, donc de trois points cardinaux.
Oui, c'est ça.
Alors que l'Orient, c'est-à-dire le Christ, c'est le quatrième de ces points cardinaux. J'ai tout compris à votre commentaire.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une cosmologie de l'Église elle-même. L'Église est le symbole de l'univers. Et ce sont les quatre fleuves de l'Éden qui résument la totalité de l'univers. Le chiffre 4 renvoie à la totalité du monde créé, avec les quatre points cardinaux, si l'on veut. Et alors, ces mages sont trois, puisqu'ils renvoient au chiffre trinitaire, donc il manque un point. Et ce point, c'est celui vers lequel ils convergent, et c'est l'Orient. L'Orient, c'est le lever du soleil, c'est le symbole du Christ, la lumière qui se lève à l'Orient, c'est le Christ lui-même, celui que l'on attend de l'Orient. Et en l'occurrence, c'est l'autel, puisque lorsque l'Église est orientée, l'Est se trouve du côté de l'autel. Enfin, l'Église regarde vers l'Orient.
Et en même temps, on a le carré délimité par les quatre piliers du cœur.
Tout à fait, du transept.
Et on monte jusqu'à la coupole arrondi qui représente le ciel et l'univers.
Ouais.
On passe du carré au cercle.
Oui, tout à fait. Tout cela est extrêmement convergent et donc induit une interprétation qui est alors plus ou moins consciente, comme on le disait hier, en fonction de la culture des gens qui assistent au spectacle ou qui le réalisent, mais qui est présente dans l'écriture elle-même. Donc ces trois rois venant des trois coins de l'église, c'est-à-dire de la porte centrale et puis des deux bas-côtés, se rencontrent devant l'autel et à ce moment-là se saluent. Pax tibi frater, paix à toi frère, c'est très, très beau, c'est très chaleureux. Et juste après cette salutation, comme dans un écho de cette salutation, chacun des trois dit « Ecce stella ». Et c'est une manière de litanie, c'est encore une manière liturgique de signifier la présence de l'étoile.
Litanie, qu'est-ce que ça veut dire ?
La litanie, c'est la récurrence d'une même parole, sous la forme du rondeau. Vous savez, il y a les litanies à la Vierge, les litanies. Alors on invoque la Vierge à travers la récurrence de différentes invocations pour dire Mère de Dieu, Reine des Anges, Reine du Ciel, etc. Et à chaque fois, on répond avec une formule identique, Priez pour nous, Ora pro nobis, etc.
C'est inclus une structure en cercle, comme
oui,
ça.
Une sorte de ritournelle. C'est l'image du moine qui tourne dans le cloître, qui marche sur ses pas et qui, à force d'usure, d'une certaine temporalité, finit par percer l'écorce du temps et atteint à quelque chose qui est éternel. C'est toujours la même quête, en fin de compte. Donc là, encore un signal très clairement liturgique dans la deuxième mention. Et puis, rapidement, l'étoile va s'éclipser puisque les mages arrivent à Jérusalem. Comme si, entre les deux, il y avait une espèce de concurrence. L'étoile n'a plus besoin d'être signifiée à partir du moment où l'on est à Jérusalem. Jérusalem, c'est le symbole de la cité céleste. C'est le lieu vers lequel toute l'ancienne alliance tend à travers...
Étymologiquement, ça veut dire ?
Vision de paix. Donc, c'est l'image du ciel. Et ça se retrouve dans tous les psaumes. On aspire à Jérusalem comme au ciel. Donc à partir du moment où les mages atteignent Jérusalem, l'étoile peut, le signe liturgique peut disparaître. Seulement il se trouve que cette Jérusalem est aussi terrestre et qu'elle est le lieu de l'habitation du roi Hérode. D'où cette grande scène au royaume des morts, comme nous l'avons déjà relevé, au palais d'Hérode, où l'étoile disparaît. Elle est éclipsée, c'est une scène où l'étoile n'est plus du tout présente. Autant dire la liturgie absente de ce royaume-là. Mais il n'empêche que les rois doivent quand même traverser ce royaume-là. Et c'est l'exil terrestre d'une certaine manière, c'est la vie ici-bas, loin des réalités célestes, à travers le côtoiement permanent du mal et du monde du mal. Et alors arrive ce questionnaire du Quem Quiritis à travers les différentes instances que nous avons évoquées, où à chaque fois l'étoile est mentionnée comme un signe apologétique, c'est-à-dire un signe qui prouve que la démarche des rois est authentique et juste. Nous cherchons le roi du monde, le sauveur, qui vient de naître parce qu'une étoile nous l'a signifié, parce qu'une étoile nous l'a montré. C'est récurrent, là aussi, toujours ce même motif. C'est donc la liturgie elle-même qui est prise comme signe apologétique, d'une certaine manière, de l'authenticité de la foi, encore une fois, du spectateur-acteur du drame liturgique. Mmh. Alors, il y a le signe naturel, le signe surnaturel, dans la réponse théologique. Le signe naturel, c'est la convergence des astres, ce mouvement, la terre elle-même qui est émue par la venue du Messie. Il y a la réponse liturgique, lorsqu'on dit que cette étoile est un guide, c'est-à-dire qu'elle est un chemin à parcourir. Il y a la réponse morale, lorsqu'il s'agissait de mentionner le fait que ce roi doit régner ou non. Et à ce moment-là, le signe est demandé en tant que tel par Hérode. Par quel signe savez-vous qu'un roi est né ? Et ils disent, une étoile nous l'a montré. Donc toute cette grande scène au palais d'Hérode a pour rôle de prouver l'authenticité, du point de vue de l'étoile, l'authenticité de la démarche des rois.
De prouver par le surnaturel.
Voilà. C'est-à-dire, comment allons-nous prouver que le surnaturel est vrai par le surnaturel ? Ça n'est pas une preuve, en fin de compte.
C'est pas une tautologie, oui.
Voilà. Ça n'est pas du tout la démarche, je dirais, théologique d'un saint Thomas d'Aquin qui s'appuie sur la raison pour montrer toute la pertinence de la foi. Non, là, c'est le signe lui-même qui est la preuve de la réalité intérieure, d'une certaine manière. On est dans un autre ordre, déjà.
Mais vous disiez que la foi ne pouvait être que l'aboutissement d'une démarche intellectuelle, en somme. Ça ne peut pas être naïf. Oui. Et là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la naïveté, quand même.
Oui, c'est-à-dire l'ordre d'une certaine transparence, mais qui n'est pas forcément naïf. Toute cette quête des rois est extrêmement pénible, extrêmement difficile. C'est le thème de l'épreuve, en somme. Il faut traverser le royaume des morts pour atteindre la contemplation. Donc, il y a une purification qui est faite par là. Alors, je dirais fraîcheur, je dirais, oui, pureté. Mais pas naïveté, parce que précisément dans l'univers médiéval et dans l'univers, je dirais, de la foi chrétienne en général, comme vous l'avez si justement relevé, la pertinence intellectuelle est nécessaire. On ne croit pas en dépit d'un ordre naturel établi. On ne croit pas dans l'absurde. On croit lorsque l'intelligence et la raison avouent leur impuissance à aller plus loin. Mais l'intelligence et la raison sont nécessaires pour aller jusqu'au terme d'une certaine démarche.
Stay.
Les musiques de l'âge roman sont en première place cette semaine dans les mémoires de la musique. C'était un conductus à trois voix intitulé Stella Serena. Voici le texte en français. Brillante étoile, d'où vient la lumière, guide, chemin, port, jardin couvert de fleurs, par toi vient la guérison. Salut, lumière, loi, paix, sauve tes serviteurs, salut. C'est un conductus. Qu'est-ce que c'est qu'un conductus?
Oui, un conduit, un conductus, ouais. c'est un chant de procession. Et on est là en plein dans notre thème, puisque l'étoile est précisément une lumière de procession. Elle est la lumière du voyageur, celle qui guide le voyageur à travers le pèlerinage terrestre. Elle est juste au-devant de lui à chaque fois. À chaque fois, elle l'attire plus loin. Hein. Et donc, c'est ce que nous relevions là à propos du jeu d'Hérode. C'est à la fois le jeu liturgique, c'est à la fois la représentation liturgique elle-même qui est signifiée au sortir du palais d'Hérode, comme on le disait, à travers son rôle apologétique qu'elle a de prouver l'authenticité de la démarche elle-même.
En couverture de votre mémoire, Bertrand Descaillers, consacré au jeu d'Hérode, vous avez choisi, nous le disions dans une précédente émission, de faire figurer ce chapiteau de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun représentant le sommeil des mages avec un ange qui leur montre l'étoile. C'est un chapiteau qui est charmant comme sculpture. Ils sont là sous une grande couverture, tous les trois, en forme de la couverture de demi-lune, un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce sommeil des mages?
Alors c'est justement le terme de leur procession. Au bout du conduit, il y a la contemplation. On évoquait cette scène dans les émissions précédentes, lorsque les mages ont passé le questionnaire des sages-femmes et que le voile tombe et qu'elles disent « Il est ici, voici l'enfant, le sauveur du monde ». Alors les rois mages adorent l'enfant et tout de suite après, ils tombent dans un sommeil. « Ante presepio », dit la didascalie, devant l'étable, devant la crèche.
C'est quoi ce sommeil? C'est une sorte d'extase mystique? C'est une...
Voilà, c'est l'extase.
Une sérénité.
C'est l'image de la contemplation, l'apaisement intérieur. C'est aussi l'image, mais dans un contexte lumineux, de la mort glorieuse. C'est un sommeil de paix, en quelque sorte. Au terme de toute la quête spirituelle, il y a la contemplation. Et c'est une image d'une douceur extrêmement belle.
Mais ça, c'est le bout du chemin. Pour l'instant, on n'est pas encore au bout du chemin. Voilà. Ils en sont au moment où ils sortent de chez Hérode et ils retombent sur nos vieux amis, les bergers.
Comme par hasard, l'étoile réapparaît à ce moment-là. L'étoile réapparaît au sortir du palais d'Hérode et c'est tout à fait logique. Mais alors, ce qui est extraordinaire, et on l'avait déjà relevé à ce propos, c'est que Hérode et Archélaüs, son fils, voient l'étoile à ce moment-là. C'est le seul moment où ils voient l'étoile. Donc l'impie assiste à la splendeur de la représentation liturgique. Il voit cette beauté. Mais cependant, et c'est ce que nous avons déjà relevé, Hérode et Archélaüs se révoltent et lèvent l'épée contre cette étoile, ce qui est parfaitement comique dans la mentalité médiévale, de voir cette dichotomie, cette distance entre le monde des réalités charnelles qui ne peut pas atteindre cette étoile qui est miraculeuse. Et puis, alors, la procession des rois, on laisse Hérode et le palais d'Hérode, la procession des rois s'engage avec un mage qui dit « Ecce stella in oriente previsa », voici l'étoile que l'on avait déjà vue en Orient, elle nous précède à nouveau. On reconnaît l'étoile sacramentelle qu'on avait déjà vue avant la scène au palais d'Hérode et on se met à nouveau en marche. Ici, c'est une rencontre... comme vous le releviez, entre les bergers et les rois mages, qui est extatique en somme et qui est elle aussi une image tout à fait contemplative de la rencontre entre l'histoire, la réalité historique, et la réalité liturgique qui mime l'histoire et qui la réactualise. Et alors à ce moment-là, l'étoile se révèle dans toute l'évidence, c'est-à-dire qu'elle conduit à la contemplation. Elle est le chemin explicite qui conduit à la contemplation, c'est-à-dire d'une certaine manière la possession de Dieu même. Elle est le viatique, oui, le sacrement qui donne Dieu.
Et au moment de cette rencontre, il y a un moment d'arrêt qui correspond à deux pièces du répertoire musical traditionnel. Il y a un répond qui est « Oregem Steli » que chantent les bergers et un autre « Quem Vidistis » que chantent les mages. On a l'impression que l'action s'arrête en somme,
oui,
pour chanter.
Ces pièces qui sont des héritages et des citations, en somme, de la tradition grégorienne, sont toujours des jalons dans le jeu du...
Donc pour l'auditeur, pour le fidèle, qui est un moine en l'occurrence, c'est le signe. On est au cœur du plus important de la chose.
Quelque chose se passe, oui. Alors on reviendra sur ces citations demain, mais effectivement, elles signalent ici que quelque chose d'important se passe. Et puis... le terme de cette procession, donc l'étoile réapparaît dans sa splendeur spirituelle, surnaturelle, etc. Que contemple, il faut tout garder de ce qu'on a dit, que contemple les yeux de l'humble ânesse, c'est-à-dire la chair, l'humilité de la chair, transfigurée en somme par l'action liturgique. Et au terme de cette procession, elle retrouve donc la fulgurance du début et elle aboutit, dit le texte, ad cunibula, au berceau. Et on note bien le berceau et non plus ad presepium.
Quelle différence ?
Presepium, c'est la crèche, c'est l'étable, c'est la mangeoire, la mangeoire de l'étable. Et alors ici, on est déjà dans une perspective qui est beaucoup moins réaliste. On ne dit plus la mangeoire, on ne dit plus l'étable, mais le berceau. C'est une métaphore, en somme, hein, pour désigner cette mangeoire. Mais nous sommes passés véritablement d'une représentation réaliste dans l'adoration des bergers, une représentation de l'histoire mise en scène à travers le symbole et à travers l'expression liturgique. Et c'est alors à une renaissance qu'aboutit l'étoile et par là même le jeu liturgique qui vient d'être joui. Et tandis que le genre était né du tombeau vide, il aboutit au berceau de la vie mystique.
Toujours l'ensemble Gilles Benchois qui interprétait ce conduit à deux voix assez court. Mais quand on lit le texte, la traduction du texte, on se rend compte que d'un point de vue théologique, on va dire, il se dit beaucoup de choses et des choses extrêmement complexes. Je vous le lis. « Sous la nue s'est caché le soleil, mais il ne connaît pas d'éclipse. Le fils du Père souverain, quand il s'est joint à la chair, verbe du Père, plus hautement se joindre, il n'a voulu. Et la chair, plus glorieusement se marier, n'a pu. » Soit dans la joie nouvelle épousée, c'est la foi, c'est la vérité, par la chair inaltérée fut la déité. Et c'est pas fini. Celui qui seul est éternel et régit toute chose, s'est fait ce qu'il n'était pas, sans toutefois devenir autre, totalement libre, le voici étroitement lié, infini, le voici couché parmi les animaux, soit dans la joie. Le texte est de qui ? Vous allez me dire, on ne sait pas, mais d'où vient-il ? Parce que c'est d'une complexité remarquable quand même.
C'est une composition médiévale, je pense, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Quoi qu'il en soit, c'est inspiré de l'épître de saint Paul qui parle justement de cette descente du Verbe dans la chair, qui dit qu'il n'a, étant l'égal de Dieu, il n'a pas voulu rivaliser de cette égalité, mais il s'est fait l'un d'entre nous, c'est-à-dire il s'est fait chair parmi les hommes. Et donc c'est ce thème, si vous voulez, de la lumière qui est mise sous le boisseau, en quelque sorte, de la chair, le Verbe, non seulement prend l'apparence de l'homme, mais se fait homme et entre dans l'humilité de la nature humaine.
À certains moments, on a parlé de naïveté, des textes, de pureté, de simplicité. Là, on est devant quelque chose d'extrêmement complexe.
Oui.
On voit qu'on est dans un milieu monastique extrêmement savant, j'imagine.
Oui. Il faut toujours se méfier de la naïveté apparente, parce que bien souvent...
Oui, vous m'avez dit à plusieurs reprises, je veux absolument en voir là où il n'y en a pas. Oui.
Non, c'est-à-dire qu'elle est souvent l'habit de quelque chose de beaucoup plus profond, qu'il s'agit justement de déceler. Là, on a un texte qui se donne spontanément comme très, très
complexe.
Savant. Mais à écouter la musique... C'est une chose très simple, très, très fraîche finalement, qui tourne un peu comme ça, qui danse un tout petit peu et qui se donne à travers une certaine fraîcheur. C'est une constante, je crois, de l'expression de l'esthétique, je dirais, dans la liturgie romaine. Elle n'est jamais intellectualiste. Elle est savante, elle est construite, elle est profonde, elle est souvent d'ailleurs elliptique, très sobre, classique, mais elle n'est pas cérébrale ou elle ne se donne pas de grands airs, disons. Et elle a pour modèle précisément celui qui est le Verbe de Dieu, qui se fait chair, voilà.
Et la simplicité de ces lignes musicales vient d'où ? Vient du monde romain, vient du monde orthodoxe, enfin de l'Orient, du monde byzantin.
Elle vient certainement de la romanité, je dirais, d'un point de vue simplement esthétique. La romanité est plus classique, plus sobre que le monde grec. Et d'un point de vue théologique, elle vient du fait que la parole, d'une certaine manière, s'excuse de rompre le silence, toujours. Elle est quelque chose à dire, mais le silence est plus profond parce que le silence dit tout. Le silence dit tout sans user de parole. Donc la parole qui intervient dans la liturgie doit être essentielle, elle doit être profonde, elle doit être sobre aussi.
Mais ce chant, vous nous parliez tout à l'heure de ces chandeliers qui venaient, les sept chandeliers symbolisaient les sept collines de Rome, ce chant vient de Rome.
Oui, le chant grégorien est romain, on parle du vieux fond romain, il est élaboré dans les premières communautés chrétiennes à partir d'un donné théologique radicalement nouveau, et c'est pour cela qu'on peut parler d'une émergence un tout petit peu spontanée autour de la nouvelle religion qu'est le christianisme, avec des héritages qui sont ceux de la synagogue, bien sûr, et du chant des psaumes à la synagogue, c'est-à-dire ce chant récitatif plus ou moins orné des 150 psaumes de David.
Alors revenons à notre jeu d'Hérode. Nous sommes à un moment où vont réapparaître les sages-femmes.
Oui, pour nous résumer, donc, on est à ce moment où l'étoile a conduit au berceau et on retrouve les sages-femmes. Il y a eu juste auparavant la rencontre avec les bergers, la mention de la prophétie de Balaam qu'on évoquait hier, et puis la mention, juste derrière cette prophétie, d'une étoile brillante qui éblouit nos yeux d'une lueur fulgurante. Là aussi, une lumière qui est surnaturel, au sens le plus littéral, qui est au-delà de la lumière habituelle, qui est extraordinaire. Et il reste donc deux mentions de l'étoile, ou plutôt une qui est un tout petit peu dédoublée, vous verrez, lorsqu'on arrive devant le berceau. Les sages-femmes demandent non plus qui cherchez-vous, mais qui sont ces gens qui cherchent Dieu et qui, sous la conduite d'une étoile, nous apportent par leur venue des choses inouïes. Les rois répondent par la même tournure, sous la conduite de l'étoile, ils sont venus adorer le roi Seigneur.
Le texte c'est « Nous sommes ceux que vous voyez, les rois de Tars, d'Arabie et de Saba, portant des présents au Christ qui vient de naître, roi Seigneur, que sous la conduite de l'étoile nous venons adorer. »
Voilà, deux regards croisés et qui usent des mêmes formulations en fait, qui sont le regard croisé des mages au terme de leur procession, et je dirais de ces sages-femmes qui sont les trois Maries, et qui leur annonce d'une certaine manière la totalité du mystère.
Les trois Maries que l'on retrouvera au pied du crucifix le vendredi saint.
Oui, et qui sont les trois Maries au tombeau vide, qui enfantent, qui sont des sages-femmes qui enfantent la foi au cœur des disciples. Les sages-femmes de Noël sont dans le genre le retour marqué, signalé, c'est très évident, de ces trois Maries qui, au tombeau vide, entendent l'ange leur dire « Le Christ n'est pas ici, allez l'annoncer aux apôtres ». Ici, elles l'annoncent aux trois rois mages que le Christ est ressuscité et qu'il s'agit de vivre d'une vie nouvelle. Et elles enfantent en quelque sorte cette vie nouvelle dans les rois mages qui sont, je vous le rappelle dans notre symbolique, l'image du spectateur fidèle qui vient d'accomplir cette procession liturgique qu'est le drame du jeu d'Hérode.
Jeu d'Hérode qui se jouait à Noël mais qui faisait constamment référence à un autre drame beaucoup plus grave qui se déroulait à Pâques.
Voilà, c'est cela. Et alors à ce moment-là, deuxième mention de l'étoile qui n'est plus une mention de l'étoile mais le signe se confond avec le signifié « Ecce puer ad est ». On laisse tomber le voile. « Voici l'enfant que vous cherchez, sans tarder, hâtez-vous, adorez-le, car il est le sauveur du monde. » Et à ce moment-là, les trois rois saluent le Christ avec cette même salutation qu'on avait au début « Ecce stella », mais ici « Salve rex seculorum »,« Salve deus deorum »,« Salve salos, salus morduorum ». Une triple salutation litanique.
Qui correspond à l'or, à la myrrhe et à l'encens ?
Oui, le Dieu, le roi et l'homme. Hein, le Dieu signifié par l'encens, symbole de la prière. Le roi signifié par l'or, c'est évident, la couronne, le sceptre. Et puis l'homme signifié par la myrrhe, qui est le parfum de sépulture des mortels. Et alors à ce moment-là, le geste est signifié par la parole. C'est à proprement parler une chanson de gestes, la liturgie. C'est-à-dire texte et geste, parole et geste, où à chaque fois il y a cette espèce d'émulation réciproque du rituel et de la parole, où le geste et la parole conduisent au cœur et du cœur remonte un chant de louange et un geste. C'est un va-et-vient incessant entre l'intériorité et l'extériorisation de la prière.
Là, on a affaire à une forme particulièrement répétitive pour ce Stella Splendens in Monte qui est extrait du livre Vermeil de Montserrat. C'était l'ensemble à la Francesca. En fait, ce sont des chanteurs qu'on retrouve pour nombre d'entre eux dans l'ensemble Gilles Binchois. C'est un peu toujours les mêmes, oui, mais c'est fait avec une grande sobriété. C'est ça le ton que vous aimez dans ces interprétations.
Oui, tout à fait.
L'intimité.
C'est la même grande famille avec Dominique Vélard, Brigitte Lenne.
Un tout petit monde, en fait.
Voilà. Et c'est vrai que leurs interprétations sont très très belles. Et on a relativement peu d'interprétations de musique médiévale qui soient pertinentes, parce que quelquefois, on a des interprètes qui sont un peu fantaisistes, puisque précisément, ce monde-là suppose une approche lente, profonde, une véritable recherche, puisque la partition ne dit pas tout, et de loin pas.
On a les lignes musicales, point final, c'est
oui,
tout.
Oui. Donc voilà, on arrive au terme de ce parcours avec l'étoile dans le jeu d'Hérode. Et il s'agit de réunir maintenant ces deux motifs qu'on a un tout petit peu explorés, Balaam d'un côté et l'étoile, deux motifs que je vous disais allégories du genre lui-même. Balaam, c'est le spectacle, c'est la représentation elle-même. Et puis l'étoile, je dirais, c'est ce même spectacle dans une perspective plus liturgique, plus lumineuse précisément. Balaam, c'est le spectacle représenté à travers les artifices de la chair, les matériaux, les rouages, j'allais dire, du spectacle prière. Et l'étoile, c'est ce même spectacle, mais du point de vue surnaturel, symbolique, du point de vue de la lumière. Alors, ce sont deux motifs complémentaires, la représentation spectaculaire et la liturgie, en somme. Dans notre jeu liturgique, on disait qu'il y avait une espèce d'ambiguïté. Est-ce que cela tient plus de l'un ou de l'autre ? Eh bien, ça tient des deux, et il faut tenir les deux, ces deux termes. Alors là aussi, demandons à la culture médiévale comment comprendre cette complémentarité. Dans un sermon de Saint Grégoire, qui est Saint Grégoire le Grand aujourd'hui, qui est lu à matines le jour de la fête de l'Épiphanie, qui est chanté la nuit de l'Épiphanie, il est dit ceci à propos du prophète et de l'étoile. « Nous devons chercher pourquoi ce fut un ange qui apparut au berger en Judée à la naissance du Rédempteur, tandis que ce ne fut pas un ange, mais une étoile qui conduisit les mages venus d'Orient pour l'adorer. » Oui, j'ai dit le prophète, l'ange, c'est-à-dire la parole. Cela vient du fait que les Juifs, sachant user de leur raison, c'est un être vivant, raisonnable, ici un ange, qui devait les informer. Les païens, au contraire, qui ne savaient pas se servir de leur raison, sont amenés à la connaissance du Seigneur, non par des paroles, mais par des signes. D'où la parole de saint Paul, « Les prophéties sont données aux croyants, non aux incroyants. Les signes aux incroyants, non aux croyants. Les prophéties sont données aux premiers en tant que croyants, non incroyants. » Et c'est en tant qu'incroyant que les seconds, non-croyants, reçoivent des signes. Il faut aussi remarquer que la prédication des apôtres à ces païens porte sur notre Rédempteur parvenu à l'âge adulte, tandis que l'annonce aux païens par une étoile concerne Jésus, petit enfant, qui ne fait pas encore usage de son corps humain pour parler. Il était bien conforme à la raison que les prédicateurs nous fassent connaître par leurs paroles le Seigneur quand il parlait, et que les éléments nous le prêchent par leur silence lorsqu'il ne parlait pas encore.
Le silence des éléments, c'est de Saint Grégoire ça donc.
Voilà, et donc la justification de l'usage du signe pour exprimer le surnaturel et la justification de l'usage de la parole aussi, complémentarité de ces deux moyens dans l'expression artistique, la parole, le geste, la musique, etc. Tout ce décorum qui constitue le jeu d'Hérode. Et par là même, on arrive à justement cette sagesse qui fait que la parole conduit à l'intériorisation, et que l'intériorisation conduit à la parole, ce va-et-vient sans cesse dont je vous parlais tout à l'heure. Ponctuer peut-être ce parcours de l'étoile, une séquence médiévale qui voit Jérusalem dans la lumière. Je vous lis simplement les premiers mots de cette pièce que l'on entend. « Ô Jérusalem, cité d'or, rehaussée de la pourpre du roi, aux constructions de bonne facture, lumière jamais obscurcie. »
Nous écoutions la fin de la séquence « O Jérusalem Aurea Civitas » interprétée par l'ensemble Discantus, dirigée par Brigitte Lenne. Pour conclure cette émission sous-titrée « L'étoile des rois », dans cette série des mémoires de la musique consacrée par Bertrand Descaillet au « Jeu d'Hérode », une dramaturgie du verbe fait chair au XIIe siècle. Dans ces mémoires de la musique, proposition cette semaine de Charles Sigel avec l'assistance de Françoise Feller dans une réalisation de Claude Dalcher. À demain, le sous-titre sera « L'or, la myrrhe, l'encens et l'éternel présent ».